VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h universel, dans ces minutes, l'Amérique et vous en rediffusion avec John Lyndon, mais tout d'abord les nouvelles. Crise en Gambie, le président sortant Yahya Jammeh a limogé 12 ambassadeurs gambiens qu'il avait invités à céder le pouvoir au vainqueur déclaré de l'élection présidentielle du 1er décembre, Adama Barrow. Selon l'AFP, il s'agit des ambassadeurs de Gambie aux États-Unis, au Sénégal, à l'ONU, en Chine, en Russie, en Grande-Bretagne, en Turquie, en Belgique, en Espagne, à Cuba, en Guinée-Bissau et en Éthiopie. Ces diplomates avaient adressé fin décembre une lettre à Yahya Jammeh dans laquelle ils lui demandaient d'accepter le verdict des urnes. Et toujours concernant la Gambie, un mini-sommet regroupant 4 chefs d'État de la CDAO s'est tenu à Abuja au Nigeria pour discuter de la crise gambienne. Selon les médias nigérien, l'organisation sous-régionale a décidé d'envoyer une nouvelle mission en Gambie ce mercredi, alors que la Cour suprême gambienne doit en principe examiner demain le recours introduit par le président Yahya Jammeh. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Les présidents du Nigeria, Muhammadu Buhari, du Sénégal, Macky Sall, du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf et l'ex-chef d'État ghanéen, John Dramani Mahama, tentent de trouver une solution à la crise en Gambie. Samedi, lors de l'investiture du nouveau chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, la présidente en exercice de la CDAO, la libérienne Ellen Johnson Sirleaf, avait déclaré que l'option militaire n'était pas à l'ordre du jour et que l'organisation continuait de privilégier le dialogue. L'organisation régionale maintient donc la pression sur Yahya Jammeh qui appelle à de nouvelles élections et refuse de reconnaître la médiation ouest-africaine. Mais la question d'une éventuelle intervention militaire semble diviser les leaders de l'organisation. Alors que le président de la commission de la CDAO, Marcel de Souza, avait annoncé que celle-ci était prête à envoyer des troupes en Gambie, le président guinéen Alpha Condé, lui, avait publiquement déclaré son opposition à toute option militaire. Alors que la date du 19 janvier prévue pour l'investiture d'Adama Barrow approche, les États-Unis ont conseillé à leurs ressortissants de quitter la Gambie, tandis que le Nigeria se dit prêt à évacuer ses citoyens si nécessaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, l'acceptation de la démission du gouvernement du Premier ministre Daniel Kablan Duncan par le président Alassane Ouattara s'inscrit dans le respect de la nouvelle constitution adoptée à une écrasante majorité lors du référendum du 30 octobre 2016. Une démission attendue depuis samedi dernier qui a été retardée par la mutinerie ayant secoué le pays pendant 48 heures. Daniel Kablan Duncan est pressenti pour le poste de vice-président dans un climat tendu par la grève des fonctionnaires. Le point avec Narita Namaste, notre correspondante à Abidjan.
Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président de la République ce lundi, conformément à l'article 83-84 de la Constitution ivoirienne où les fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Le Parlement nommé membre du gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la durée de ses fonctions ministérielles. L'élection du président de l'Assemblée nationale est en cours et les résultats seront connus ce lundi. Si membres du gouvernement candidats à la législature, 17 ont été élus députés et doivent prendre part à la séance inaugurale de l'Assemblée nationale. Un pays à nouveau à l'épreuve d'une crise de mécontentement, celle de la grève lancée par l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, une grève largement suivie à l'intérieur du pays. Pour l'heure, en attendant la nomination du nouveau vice-président et des responsables des institutions de la Troisième République, les regards sont tournés vers le Parlement ivoirien. Narita Namaste, Abidjan, VOA Afrique.
À Dakar, au Sénégal, suspension jusqu'à demain du procès en appel du président tchadien déchu Hissène Habré, qui s'est ouvert ce lundi en son absence, 7 mois après sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain. Et pour terminer au Cameroun, journée ville morte ce lundi dans plusieurs villes des régions anglophones du pays, à l'appel d'organisations sécessionnistes qui protestent contre ce qu'elles appellent la marginalisation des anglophones dans un pays à majorité francophone. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette autre édition de l'Amérique et vous. Nous émettons depuis Washington, D.C. aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Lionel Gaïma sur la production de cette émission, mise en onde par Suleiman Tarawale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. En pleine campagne présidentielle, Washington a accusé la Russie d'avoir piraté des organisations politiques et des systèmes électoraux aux États-Unis. Ces vols, c'est le département de la sécurité intérieure et la direction du renseignement américain. Ces piratages ont eu pour but d'interférer dans le processus électoral américain. Depuis, la Maison-Blanche a imposé des sanctions à la Russie qui nie toute implication dans cette affaire et a promis de réagir si besoin après la prise de fonction de Donald Trump. Ce dernier reste très sceptique, un scepticisme qu'il a mis en porte-à-faux avec les élus républicains au Congrès. Alors, question, que pensez-vous de ces rapports tendus entre les États-Unis et la Russie et de façon générale des piratages informatiques qui ont lieu dans le monde aujourd'hui. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons depuis Paris Nicolas Arpagian. Bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas, vous êtes directeur scientifique cycle sécurité numérique à l'Institut national des hautes études et de la sécurité et de la justice. Merci pour votre disponibilité. Depuis Washington, nous avons Basile Nyong. Basile Nyong, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous êtes président de BCCA Network, 7 Technologies. Merci également pour votre disponibilité. On va commencer par une question, je ne veux pas dire simple, mais par la première. En fait, c'est quoi la cybercriminalité, Nicolas?
Alors, en fait, il s'agit de l'usage offensif des technologies de l'information. D'une part, pour éventuellement rentrer dans un système informatique, ça peut être celui d'une entreprise, d'une administration. En ce qui concerne l'actualité entre la Russie et les États-Unis, c'est potentiellement à l'intérieur de la structure de pilotage du Parti démocrate. On rentre dans le système pour espionner, éventuellement voler de l'information, l'extraire, soit pour l'exploiter, soit pour la rendre publique. La deuxième composante de cette de cet usage numérique offensif, c'est de prendre des informations de manière à les rendre publiques ou au contraire à les inventer de toutes pièces de manière à polluer le débat, que ce soit à l'encontre d'entreprises. Donc là, en l'espèce, dans le cadre de la campagne électorale américaine, ça a été avec des informations concernant les tensions qu'il y avait au sein du Parti démocrate, entre notamment les partisans de Bernie Sanders et d'Hillary Clinton. Donc ça a été des informations vraies qui avaient vocation à rester secrètes et qui ont été diffusées de manière à affecter le débat public. Et la deuxième chose, ça a été des informations mensongères, inventées de toutes pièces, de manière à décrédibiliser, dévaloriser, en l'espèce, la réputation de la candidate Hillary Clinton. Donc ce sont toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justement les attaques numériques.
Alors, Basile Nyong, est-ce que c'est différent de l'espionnage? Et puis, depuis quand est-ce qu'on parle vraiment de cybercriminalité? C'est un terme qui revient de plus en plus ces jours-ci, mais à quand est-ce que remonte l'usage de ce terme?
D'abord, je pourrais dire que lorsque l'Internet est né, c'était une application militaire dans un premier temps qui a été mise à la disposition du public. Et depuis sa mise à disposition du public, elle a évolué. L'Internet a évolué dans le temps, en développement, mais le développement allait parallèlement avec aussi la protection. Donc, c'était un réseau public. Je peux dire aujourd'hui que c'est un toit qui n'est pas complètement hermétique. Vous avez des passages où vous avez sûrement des, disons, de la pluie qui s'infiltre dans le système pour imaginer la chose. et on ne finit pas de réfléchir sur